Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Franck Galouze, qui est le fondateur de Courbette et Galipette, voilà, une marque que j'ai beaucoup appréciée. Bonjour Franck.
Bonjour, comment vas-tu?
Très bien, eh bien on est ravi de t'avoir. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire un peu les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver à Courbette et Galipette?
Alors mon parcours, il est dès le démarrage, c'est le retail, puisque j'ai commencé, ma maman était responsable d'un magasin à l'époque, alors pour les plus anciens vont connaître, c'est Félix-Potin, qui était un petit, ouais. C'était des magasins, on va dire, l'ancêtre de Franprix. Voilà, donc je suis né dans un commerce d'alimentation, et puis donc ça m'a préparé un peu à la vie du retail, évidemment. Et puis ensuite, j'avais des rêves de gamin, entre autres... la musique, et j'ai poussé ses rêves jusqu'à l'exécution de ses rêves, c'est-à-dire que j'ai produit de la musique.
Comme dirait Jean-Jacques Goldman.
C'est ça, exactement, pour venir à la musique. Et puis voilà, donc effectivement, j'ai fait de la musique après, donc je suis devenu producteur de musique. Bon, entre-temps, j'étais DJ aussi.
Ah oui, oula.
Voilà, j'étais DJ dans les nuits parisiennes des années 90.
C'était un acolyte de David et Bob.
Alors exactement, on a commencé tous à peu près au même moment. Alors voilà, donc effectivement, les bains douches, le Café Milano, le Barfly, enfin tous ces endroits mythique des années 90, où il y avait une belle fête à Paris, ce qui nous manque un peu, je trouve. Mmh. Et puis ensuite, production musicale, donc j'ai produit quelques disques qui ont plutôt bien marché. Et puis après, voilà, quand j'ai senti le vent tourner un peu, parce que la musique devenait un peu compliquée, du fait c'est le moment un peu le trou noir de la musique, c'était la période où il y avait des téléchargements illégaux, avec entre autres... les gens n'achetaient plus de disques puisque tout était gratuit avant l'arrivée de Spotify. Et voilà, donc j'avais produit des disques. Et puis ensuite, là, bon, bah, le trou noir, j'ai commencé à... J'avais une autre passion, c'était les fringues. Et puis, je suis un homme et j'aime bien les fringues de femmes. Donc j'ai commencé à acheter, voilà, acheter des fringues pour femmes. Et puis ça a fonctionné avec un magasin le tout premier à Levallois.
Ah bah en plus Levallois, donc là où est situé Newton Studio et My Gemini, et ça s'appelait déjà Courbette et Galipette.
Et c'est tout de suite appelé Courbette et Galipette.
Pourquoi alors ce nom, alors Courbette et Galipette, c'est assez étonnant.
Alors franchement,
ça sonne bien quoi.
Ça sonne bien, mais alors à l'époque c'était pas...
politiquement correct.
Politiquement correct déjà, et puis c'est sorti de ma tête et sans vraiment d'explication en fait, c'est sorti comme ça. Ça doit être mon côté un peu artiste. Et voilà, j'ai trouvé le nom qui sonnait bien. Et puis alors c'est vrai qu'au démarrage, ça a été un peu dur parce que les gens n'ont pas tout de suite adhéré au nom. Et puis c'est marrant, avec le temps, c'est devenu un nom que les gens apprécient. Et c'est rigolo parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'au tout démarrage, c'était vraiment très compliqué.
Là, on est en quelle année quand tu lances le premier ?
Le premier magasin en 2006.
2006, donc.
Septembre 2006.
Quand même pas mal. Donc ça veut dire il y a quand même 17 ans.
Voilà.
Et là, c'était ta reconversion. Tu avais, j'imagine, une trentaine un peu.
J'avais 35 ans.
35 ans et donc toujours la fibre entrepreneuriale finalement. Tu as bossé dans des boîtes avant ou tu as toujours été finalement entrepreneur ?
Entrepreneur, alors j'ai travaillé dans les boîtes, j'ai tout fait, mais j'ai aussi fait le commercial à l'époque, dans les années 90, c'était le début de tous les démarchages avec les stylos pour les faux billets. J'ai fait tout.
Oula,
ça.
Voilà, mais t'as dû adorer la série avec Tapi, toi aussi, j'imagine.
Bah, nous, on a été, bien sûr, on a été élevés à l'école Tapi. Alors, avec ses Tapi, c'est un personnage, il y a des parts sombres et puis il y a aussi des parts extraordinaires. C'est-à-dire qu'effectivement, pour un petit garçon qui vient d'un milieu plutôt,
oui,
on va
modeste.
Dire modeste, pour nous tous c'était un exemple quoi, voilà.
Et donc, côté tout est possible, et puis le côté très décloisonné d'aller de tout univers, puisqu'on le voit bien.
Exactement.
Dans la série, entre les télés et le comment cœur assistance au départ, ouais. Qui est quand même incroyable.
Non, mais il avait cette magie. Bon, après, c'est le personnage, il est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a, il, comme je dis, il a des parts d'ombre qui sont
fortes quand même.
On ne peut pas le mettre au nu. L'idée même de mettre une statue et tout ça, je trouve ça un peu du rail parce que c'est vrai qu'il a. Il a un peu déconné quand même, le monsieur.
Oui. Et d'ailleurs, quand on voit la série, on se dit mais comment il tombe dans cette histoire de l'OMVA ? Il n'avait pas besoin de ça, quoi. Et après, il avait... je ne sais pas s'il avait gagné
L'OMVA, c'est la partie de l'iceberg qu'on a découvert, mais c'est toute sa vie, ça. Toute sa vie, oui. C'est que des carambouilles.
Oui. Voilà, il est toujours sur la ligne rouge.
Voilà,
quoi.
Il a toujours été limite. C'est un état d'esprit. Mais ça aussi, là d'où il vient, c'est-à-dire quand tu viens de ces endroits-là, t'es toujours sur la corde raide.
Mais c'est ce qui le rend attachant et qui fait que ça fait un peu personnage d'avant, ce petit côté un peu tonton flingueur.
Ouais, et puis c'est ça, et puis il avait, et puis à côté de ça, bah, les bons côtés, c'est le côté où rien lui fait peur, quoi.
Qu'est-ce que t'as aimé toi dans la série ? Parce que c'est marrant, j'en parle pas mal en ce moment. T'as bien aimé les acteurs,
je suis pas comme un fou. Parce que moi, d'accord. Je connais bien l'histoire de Bernard Tapie parce que j'y étais, entre guillemets, proche. Parce que moi, j'étais à l'école à un moment donné avec son premier fils, qui est Stéphane.
Ah oui, Stéphane, ouais. qui est devenu producteur de télé après.
Ouais, voilà, mais ouais. Qui était surtout, qui a pris la fibre de son papa au niveau un peu comme ça, un peu foufou. Il était un peu foufou, Stéphane. Et il a un côté comme ça, enfin, il l'avait en tout cas à l'époque, quand on était jeunes. Et on s'est croisés plus d'une fois et tout ça. Donc, j'avais à travers lui un peu... Bon, voilà, je voyais un petit peu cet univers un peu d'où venait Bernard Tapie. Donc, c'est très romancé quand même, la série de Netflix. Elle est très romancée. Donc, évidemment, et c'est normal parce que le but, c'est aussi
d'intéresser.
On ne peut pas... voilà. Et donc...
Forcément, il manque des choses aussi.
Et puis, alors, seul truc que je peux... c'est que moi, j'aime bien tout ce côté, justement, je suis dans les fringues, donc... Je trouve ça, c'est pas très réussi. Voilà.
D'accord.
Voilà,
okay.
Ça, pas...
Bon, on va revenir à Franck hein, après Bernard. Mais, ouais. Donc, Courbette et Galipette, donc un premier magasin. Et puis, donc aujourd'hui, quand même, un bon réseau. Vous êtes combien de points de vente là ?
11 maintenant.
11, donc voilà. Beaucoup région parisienne. T'es aussi.
Alors, on est moitié-moitié à peu près, puisqu'on est à 2 à Levallois. Et puis, le reste, c'est Rueil Malmaison, Boulogne, Paris 11, Paris 9. Et puis. Et puis après, c'est la province. On a développé la province avec les villes comme Lyon, Aix, Bordeaux, Toulouse et Rennes. Voilà. Et donc voilà, donc ouais, un peu la province aussi. Voilà. Et puis,
Alors moi, je voulais t'inviter parce que je suis rentré dans le magasin et j'aime bien le local. Revenir, même si on a un podcast de marque et tout ça, j'aime bien revenir à la base du business qui est souvent rentrer dans un magasin et on aime bien l'ambiance. Moi, j'ai été touché par le design, le concept un peu... Cali sur des un peu on a l'impression de dénicher un peu des comme ça des vêtements un peu inédits
c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'en fait l'idée même de Courbette et Galipette, c'est que on vient chiner en fait parce qu'il y a c'est vraiment des coups de cœur en fait, moi,
petit côté vide grenier premium,
voilà,
petit
c'est côté ça, exactement ça. On vient alors c'est que des nouvelles évidemment c'est pas de la seconde main, hein. C'est vraiment des vêtements de saison. Mais par contre, il y a vraiment cet univers, effectivement, parce que ça va dans tous les sens, dans le sens où les prix n'est pas. On peut tourner l'étiquette et avoir des belles surprises en termes de prix, c'est-à-dire d'avoir des super trucs pas très chers. Et puis aussi, quand j'ai un coup de cœur sur un truc qui me plaît, j'ai pas envie de rater sous prétexte d'un prix. D'accord. Donc, effectivement, il y a aussi des pièces très chères. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis j'essaie que ça soit le plus harmonieux possible. Et puis a priori, pour l'instant, ça fait 17 ans.
Déjà, d'avoir ton réseau depuis 17 ans dans ce business, qu'on le sait, n'est pas simple. Donc c'est quand même déjà une belle performance. Parce que c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Moi, je voulais t'inviter aussi parce que c'est pas commun de créer comme ça une chaîne comme ça en France. C'est un business qui est pas simple, j'imagine. Il faut de l'investissement, il faut aller dénicher les produits, faut marketer dans un contexte.
Effectivement, j'ai commencé dans ce métier finalement dans une période où c'était déjà le déclin pour tout le monde. Tout le monde disait, parce que moi j'ai fréquenté des gens qui avaient déjà des magasins à l'époque et ils disaient c'est fini, ce métier est fini.
Oui,
tout
c'est l'après-sentier un peu. Voilà, d'ailleurs, on a eu le scénariste de La Vérité si je mens. Il est venu, Michel Mounz. Et c'est marrant, la naissance de son scénar, c'est qu'il errait vraiment dans les rues du sentier. Ouais. Mais c'est vrai que ça racontait bien ça, La Vérité si je mens, comment à un moment ça se termine le truc.
Ah oui, c'est vrai que c'est le déclin à un moment donné de ce quartier mythique de Paris. avec grand regret. Il y en avait deux comme ça que j'aimais bien. Il y en a, il y avait le même à Marseille, rue du Tapis Vert. Mmh. Et c'est pareil. C'est marrant parce que ça marque une époque. Je dis souvent, moi qui suis un vrai Titi parisien, et fier de l'être.
Hein, t'étais de quel arrondissement à la base, toi?
Moi, je suis du 17e arrondissement.
Ah, 17. Voilà, Batignolles et tout ça.
Alors, j'ai grandi en plus côté Porte d'Anière et tout ça.
Ah oui, Porte d'Anière. Voilà. Ouais.
Mmh. Rue Lévis, Porte d'Anière, voilà.
Villiers, tout
voilà,
ça.
Voilà, et qui était avant que ça devienne ce que c'est devenu, mais c'était quartier populaire de Paris. Mmh. Parce que moi, j'habitais dans la rue du Marché, donc évidemment, toutes les rues du Marché à Paris, c'était les quatre saisons et tout ça, ça m'a marqué. C'est avec un grand regret que je trouve qu'on perd ça dans Paris. Mais c'est vrai que quand tu vois comment c'était le sentier à l'époque, dans les années 80, cette énergie, cette dynamique et tout ça, on peut que regretter que ça disparaisse. Oui. Mais c'est la vie, il y a d'autres choses.
C'est devenu maintenant le coin des startups.
Exactement. Et, sentier. Et par contre, ça marche vraiment bien en startup, hein, parce que là, j'ai cru entendre que Google s'installait au mur.
Bah, c'est vrai que c'est un quartier qui est, en plus, j'y étais là il y a quelques jours, c'est un quartier qui est quand même super agréable pour les, jeunes, pour les jeunes générations, c'est pas mal de bosser là-bas.
C'est très vivant là-dessus, c'est vrai. Moi, j'avais mes bureaux dans le sentier pendant très longtemps, je suis parti il n'y a pas très longtemps. Du fait qu'on nous exclut, parce que évidemment, ça à Paris, on veut plus de ce type de stock. Moi, c'était mes bureaux et mon stock, et c'est vrai qu'ils nous ont un peu éloignés, parce qu'on se retrouve maintenant à Aubervilliers. J'ai un regret, parce que vraiment, je trouve que c'est Paris, il faut pas que ça reste un stéréotype, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est.
Il faut que ça vive. C'est vrai qu'en ce moment, ça se décentralise de plus en plus. C'est très critique avec la circulation.
Je suis très critique sur Paris. Je le reconnais. Je suis un vrai enfant de Paris. Donc, je le porte haut et fort.
C'est amour-haine, la relation, les Parisiens avec Paris. Hein.
Ah ouais, nous, on est. C'est pas ça. C'est que quand t'as connu Paris comme je l'ai connu, je vois ce qu'on est en train de devenir. C'est triste. C'est très triste.
D'accord.
Et quand tu vois Londres qui a su garder cette énergie qu'on n'a pas su garder nous, quoi. Ou même New York. Mais vraiment Londres, c'est vraiment flagrant. Moi, la dernière fois, je suis parti à Londres. Donc, je suis descendu Gare du Nord. Et puis, bon, j'aime bien me balader. Donc, je suis sorti, il était 22h30.
Oui, ça pulse, quoi. Il y a une vraie énergie, quoi.
Et tu vois, tu sors de Londres, tu arrives à Paris, tu as une descente incroyable, quoi. Donc, je dis, si elle nous écoute, Madame Hidalgo...
Il faut réveiller Paris, quoi.
Il faut réveiller Paris.
Bah, espérons que les JO donnent un petit coup de boost. Bon, c'est pas...
Mais c'est pas ça qui...
Ça va pas être la night non plus, quoi.
Voilà, non, mais c'est surtout qu'il faut qu'elle réveille Paris avec ses Parisiens.
Ok, bah écoute, le message, en tout cas, je pense, va passer. Alors, juste pour parler des grandes étapes, donc Courbette et Galipette, donc j'imagine au début, tu as le concept, la marque. Après, il faut aller quand même trouver de l'investisseur, ou tu as réussi à faire en autofinancement
En autofinancement, j'avais, comme je te l'ai dit, fait de la musique auparavant avec un certain succès, ce qui m'a permis de pouvoir investir une partie de ce que j'avais gagné.
C'était quoi l'album d'ailleurs qui avait bien marché fort?
C'est le groupe qui a vraiment. Bah, j'en ai fait plusieurs, mais il y avait Organize entre autres.
Organize.
Voilà, et puis ensuite il y a eu la musique du Loft. J'ai parti au projet de Yannick et ces soirées-là. Enfin voilà, il y avait pas mal de. Voilà.
C'est
et puis après,
ça.
On a fait un truc d'Eurodance qui avait bien marché, qui s'appelait Cascada aussi, en 2006, l'année où je crée le Courbette et Galipette. C'est mon dernier disque, mon double disque platine avec Cascada.
C'est marrant comment tu as changé de vie, quoi. C'est incroyable. C'est une autre vie, quoi.
Ça, c'est une autre vie parce que, effectivement, sans faire mon parcours non plus, j'ai fréquenté des gens qui étaient des superbes réussites. Entre autres, parce que moi j'ai monté Réservoir Musique avec Jean-Luc Delarue, j'ai fait voilà tous ces gens-là. Et donc ça marquait une époque, voilà, c'était une époque bénie.
Les 90s, quoi.
Ouais, voilà. Il y avait une vraie énergie, et c'est vrai que dans la musique en tout cas. Aujourd'hui, c'est moins fort dans la musique, malheureusement. Mais il y a d'autres domaines où il y a cette énergie.
Si on parle de la mode, du retail, qui est là le secteur où tu t'es lancé, donc c'est courageux parce que tu t'es lancé là où il y a quand même des marques historiques, il y a des gens qui ont des gros réseaux, et toi, tu es allé avec un concept un peu plus novateur. Ça a été quoi ton constat sur ce business?
Le constat sur ce business, c'est qu'en réalité, j'en ai pas fait un. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai toujours fait les choses par instinct.
C'est une passion, oui.
Voilà, par instinct. Mmh. Et quand j'avais envie de faire ça, et je me suis pas trop posé de questions, chez moi, c'est rare, il y a peu de réflexion.
D'ailleurs, on sent le côté créatif, artistique, le côté design, tu l'avais mis un peu au cœur des magasins, par exemple.
Oui, bien sûr, mais moi, et encore, je me suis pas. éclaté comme j'aurais voulu. Parce que, en fait, moi, après, j'ai encore d'autres projets, mais c'est vrai que celui de la décoration, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours vachement attiré.
D'accord.
Donc, effectivement, on a essayé de faire des magasins qui étaient. Chaque magasin sans un univers, il n'y en a aucun qui se ressemble, il n'y a pas un seul magasin qui se ressemble.
Et une vraie proximité fois. Aussi, on a vu avec le lien avec les directeurs de magasins que tu as créé, je trouve.
Mais ça aussi, ça va avec, c'est-à-dire que c'est leur magasin. Moi, le but, c'est que quelque part. Je suis là pour orchestrer tout ça, mais la force, c'est les gens qui travaillent à l'intérieur. Je viens du retail, donc je sais à quel point l'importance...
De l'intuitu personnée, comme on dit.
Exactement, c'est la personne qui travaille dedans et souvent, ça vaut au moins 60 ou 70% du chiffre d'affaires.
D'accord, bon, bah, ça, on a vu ton talent de recruteur. Et alors après, donc c'est les femmes en priorité en termes d'habits ?
C'est que des femmes.
C'est femmes.
J'avais fait une boutique d'hommes, mais je ne m'éclatais pas assez.
Sur ce marché, c'est quoi ta constatation ? Bon, évidemment, tout le monde est un peu plombé par le pouvoir d'achat en ce moment. Les médias en font des caisses, alors qu'il y a eu des inflations quand même par le passé. Mais là, c'est quand
même...
Oui,
mais il y a d'autres raisons aussi. C'est vrai qu'il y a eu des inflations dans le passé. Mais là, la différence, c'est qu'à l'époque, les gens avaient plus de pouvoir d'achat.
Oui.
C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui nous plombe aujourd'hui, c'est qu'on a plus de... On a le téléphone,
on a
17 000 abonnements dans tous les sens.
Il y a plein de sollicitations.
Ouais, exactement, donc c'est ça la vraie différence. Effectivement, parce qu'il y a eu des taux à 11 ou 14%, donc effectivement, normalement, là on est à 4,5%, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens, parce qu'effectivement, comme je te dis, aujourd'hui tu es sollicité de toutes parts, et du coup, tout le monde veut son téléphone, tout le monde veut son abonnement télé, tout le monde veut son abonnement avec la super voiture.
Son cinquième abonnement de plateforme, parce que maintenant il n'en faut plus que un, il en faut quatre ou cinq.
Ah, c'est ça, exactement. Si tu regardes, si tu aimes le foot comme moi, tu es obligé d'avoir deux abonnements. Voilà. Donc, effectivement, c'est ça qui plombe un peu. Maintenant, c'est l'histoire de l'économie, on va dire. Hein. On est un moment, et pour nous, c'est tellement. J'étais un peu grossier, mais tellement chiant que ça nous arrive maintenant parce qu'effectivement, c'est notre quotidien. Mais si tu lis ça sur l'histoire de l'économie, c'est déjà arrivé. Voilà,
d'accord. Donc. Et alors après, c'est un marché, c'est beaucoup de l'achat coup de cœur. Donc il y a les week-ends, il y a de la saisonnalité avec les Black Friday. Je sais que tu fais aussi beaucoup les salons. Ça, on me l'a dit, que tu aimes bien aller dénicher. Tu as une vraie patte pour aller dénicher.
Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que j'aime bien aller me balader un peu dans les salons, que ce soit à Milan, que ce soit à Paris.
Il y a les Who's Next, ça reste aussi fort, tous ces trucs-là un peu ?
Aujourd'hui, ça aussi, c'est un truc qui est en train de changer parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de showroom. On passe avant c'était 5 jours, aujourd'hui c'est 3 jours. Le Who's Next, c'est 3 jours alors que c'était 5 jours. Bon, ça sent pas très bon sur l'avenir de ce genre d'événement. D'accord. Malheureusement, je le regrette vraiment parce que c'était une communion, c'était une énergie pareille. Bon, le monde change, il faut s'adapter. Mais il y a des côtés positifs à tout ça, c'est qu'effectivement, grâce à Internet, il n'y a plus de limites. Tu peux te faire connaître si tu as du talent, tu peux te faire connaître aussi par Internet. Donc il y a des créateurs qu'on a découverts grâce à Internet. Voilà, donc tout ça évolue. J'espère que les gens continueront à aller malgré tout dans les magasins de proximité parce que malgré tout, il y a une approche humaine qui est. Parce que le tout
digital suffit
ça suffit pas. Bon, ce qui nous a plombé et ce qui nous a un peu sauvé, c'est ce fameux Covid où effectivement les prévisions sur le marché du digital a gagné un temps fou. C'est-à-dire que ce qui aurait dû arriver en 10 ans, ça arrivait en 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 25% du marché.
T'es passé à l'e-commerce toi aussi en modèle ? Pas encore ?
Alors, j'y passerai pas parce que j'ai pas les moyens. En fait, en gros,
c'est lourd à mettre en place. C'est ça.
Alors, c'est pas que ça. Non, c'est la marge. On n'a pas la marge pour le faire. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un vrai e-commerce, il faut avoir de la marge parce qu'en fait, les coûts n'arrêtent pas de monter parce que tout simplement, il faut se faire référencer. Les coûts des photos. Et puis moi, je suis un acheteur compulsif. Chez moi, il y a des nouveautés. Il y a 25% du magasin qui tourne à peu près toutes les semaines.
D'accord.
Donc effectivement, si tu imagines bien qu'à faire ça sur un e-commerce, c'est compliqué à mettre en place. Parce que moi, ce que j'aime, c'est acheter, c'est ma folie. J'ai la fièvre acheteuse et donc j'adore ça, j'adore découvrir, j'adore aller chercher des petites pièces pour mes clientes. Et elles me rendent bien d'ailleurs, parce qu'elles sont en général, elles sont assez contentes justement de notre fonctionnement. Qui est, effectivement, c'est des nouveautés toutes les semaines. Et à peu près, comme je te dis, à peu près 25 à 30% du magasin toutes les
D'accord.
semaines qui tournent.
Le gros du client, c'est du clientèle très fidèle. C'est quand même un business. Ça,
Ouais,
un
bah,
peu,
surtout
c'est
ça dépend où je,
55.
ça dépend les magasins où on se place. Il y a des endroits où c'est encore plus fidèle que d'autres. On parle de Levallois, qui est là où j'ai démarré. C'est effectivement, c'est une clientèle extrêmement fidèle. Il y a peu de, il y
Proximité.
a peu de mouvement dans ces villes. Je veux dire, il y a, ça reste
Bien sûr.
ça reste, on va dire, un peu communautaire. Et c'est
Ok.
pareil pour Royal Malmaison, que tu nous as découvert. Et c'est pareil pour Boulogne. C'est moins le cas à Charonne et moins le cas dans Paris, parce qu'effectivement, à Paris, il y a un brassage de monde qui fait que. Voilà.
Alors, Franck, on arrive à la dernière partie du podcast. Un petit sujet, je sais que tu es assez branché aussi numérique, tu regardes quand même tout ce qui se fait. On a pas mal parlé en off de tout le mouvement des on va dire des content makers et pas des influenceurs, parce que je sais que ce terme, t'aimes moyen, un peu comme moi d'ailleurs, t'es pas fanat. Mais qu'est-ce qui a bougé dans la communication, tu dirais, du monde de la mode en contenu? Maintenant, c'est devenu majeur. Tout l'aspect format
Alors,
contenu, le social media,
tout ça,
je
c'est
sais que tu
très.
t'y mets, toi, tu commences à développer
Alors,
tout
bah,
ça.
moi, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait tout de suite. En fait, j'ai démarré très, très fort tout de suite avec Instagram. Et puis ensuite, le seul truc qui m'a un peu ennuyé, c'est qu'on est tous, on a tous après suivi avec le même format. Et il y a un peu. Et moi, c'est vrai que j'ai
Oui, une
tendance à
espèce de
ouais,
standardisation
standardisation. Et là,
des.
c'est du coup, je me suis vachement ennuyé.
D'accord.
Et donc, j'ai un peu levé le pied. Et c'est pour ça que là aujourd'hui, je me repose certaines questions sur la façon d'appréhender ce type de nouveaux formats comme TikTok et tout ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'angle qui fera que je me remette dessus à fond. Mais il faut trouver l'angle parce que mais le fait d'avoir ces fils tous semblables les uns après les autres, où tu
Oui,
tournes le
c'est
truc
vrai.
et tu as l'impression que c'est la même chose chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. Enfin, vraiment, je m'ennuie, moi. J'ai besoin
C'est
que
vrai.
ça.
D'ailleurs, on a eu les mêmes constats que toi dans le monde de la bouffe, hein, de la nourriture, parce on a travaillé avec Chaumette dans l'art de la table. Et c'est vrai que même en faisant des best practices sur les marques food, ils regrettent aussi ce que tu dis. C'est qu'à un moment, ça se ressemble tous, quoi. Donc il y a un vrai sujet de quelles pattes on a, comment on
Voilà ce
shoot.
que j'ai réussi à faire dans les magasins. Je te le dis franchement, je n'ai pas su le créer pour l'instant sur le numérique. Mais parce que pour l'instant, le numérique est finalement, on est au début d'une ère. En fait, pour nous, on a l'impression
Oui,
que
c'est déjà
ça fait
vieux,
déjà vieux,
mais
mais c'est rien sur l'histoire de l'humanité, quoi.
c'est
C'est-à-dire
vrai.
que c'est une révolution industrielle qu'on vit là. Évidemment, avec ses défauts et puis les risques qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on a entendu parler de tout ce qui se passe en ce moment, l'harcèlement, l'accompagnement. Ça va avec, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à maîtriser cet objet qu'on ne maîtrise pas. Franchement, pour l'instant, on ne le maîtrise pas. La vérité, elle est là. C'est qu'on ne le maîtrise pas, c'est qu'on est là, on tâtonne, on cherche, on cherche le moyen d'eux, et puis à un moment donné, on va trouver, parce que c'est l'histoire de l'homme qui veut
D'accord.
ça.
Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai travail, parce que nous, pour le faire en tant qu'agence, entre la ligne éditoriale, la création des formats, le studio de prod, le shooting photo, les
Ah, mais c'est.
capsules vidéo, c'est ça qui est pas facile. D'ailleurs, pour un entrepreneur, tu me le disais, c'est quand on a un gros réseau, on peut se dire, on met le budget. Mais
Exactement.
quand on est un entrepreneur comme toi, un indépendant, il est où le ROI
C'est ça. Et
et il faut être patient, parce qu'on c'est pas comme ça qu'on arrive à 100 000,
bah, oui,
200 000,
évidemment. Et
et c'est
puis
un marathon,
c'est
quoi.
un marathon et Internet, c'est l'océan. Alors, tu vois, c'est l'océan avec des petits poissons à l'intérieur et va trouver là-dedans ton chemin, te faire connaître, pas te faire bouffer. Enfin, comme je te dis, on apprend d'un nouveau. C'est une révolution. Donc, voilà,
Exactement.
c'est une révolution industrielle. Et donc, on va apprendre. Mais on voudrait aller tellement vite parce qu'on vit une société où tout va vite. Mais ça, pour le coup, on ne peut pas aller vite.
Tu partages avec moi que oui, on a vu, il y a des écueils de tout ce monde de l'influence. Aujourd'hui, ça suffit pas évidemment d'avoir des millions de followers. Il faut scripter, tu penses comme moi, des bons contenus, des bons formats
C'est ça.
et raconter ça
Et
avec un point de vue,
c'est
quoi.
ça. Et c'est pour ce que je te disais, ce que j'ai réussi à faire dans le détail, dans le retail. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé l'angle pour le faire sur Internet, à travers les social media. Et si c'est pour faire un truc de plus que les autres,
Oui.
qu'à chaque fois, bon, franchement.
Bon, bah, faut être créatif. Là, on repart à la créativité,
C'est
la stra
ça.
et trouver les bonnes idées, hein, c'est
Et là,
toujours.
c'est toujours c'est le combat de notre vie, nous, les entrepreneurs, et c'est toujours de trouver, à travers avec des gens comme vous, hein, qui nous aident.
Croise les doigts.
Mais il faut trouver le truc, quoi. Parce que pour l'instant, là, on s'ennuie, là.
D'accord.
Il y a eu l'aspect vidéo qui marche bien, où on personnalise vachement et tout ça. Mais même ça, maintenant, comme tout le monde.
Oui,
Le problème,
ça
c'est
devient
que.
vite passé,
C'est
quoi.
ouais, c'est ça va trop vite. On n'arrive pas à trouver le truc. Tu vois, c'est-à-dire qu'on commence un truc demain matin
T'as
comme
10
c'est
marques qui
Internet.
font la même chose.
Voilà, et donc après, bah après,
Serait quoi les deux, trois marques ou les deux, trois initiatives où tu t'es dit, ah ouais, là, ils ont amené quelque chose? C'est qu'à un moment, il y a Etam qui avait fait les défilés live.
Voilà, Cézanne, là, pour nous, dans notre métier, c'était Cézanne. Oui. Dire, voilà, elle a amené à un moment donné
une fraîcheur, une esthétique.
Mmh. Qui était.
Pas très loin d'ailleurs, je trouve, dans le style. Il y a un côté créa, ADA.
On a le même ADN. C'est-à-dire que, elle, ce qu'elle a, elle a fait, c'est que les 10 ans d'écart ont joué. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10 ou 12 ans d'écart entre Cézanne.
Tu as rencontré, j'imagine. Ouais,
ouais, alors, c'est marrant parce que.
Sympa.
Ce qui est fou, c'est que cette histoire est rigolote. Et c'est que moi, mes bureaux étaient rue des Jeuneurs.
Voilà, dans le 2, justement.
Dans le deuxième, et j'étais en face de la rue Saint-Fiacre. Et il faut savoir que Cézanne a démarré à l'angle de la rue des Jeuneurs et de la rue Saint-Fiacre. Donc on était voisins.
Ah, c'est marrant.
C'est-à-dire que tous les jours, je voyais sa success story, tous les jours, à me sauter au visage. Alors, il faut être solide parce que ça marchait tellement fort que je disais putain, et effectivement, tout était beau, c'était esthétique, et effectivement, on a le même ADN. Mais elle l'a fait à travers Internet, vraiment, puisque c'était son business plan. Puis après, elle a vite compris que ça ne suffisait pas. Elle a développé le retail aussi. Et donc, elle a ouvert son premier magasin en face de mes bureaux, qui était donc à l'angle de la rue Saint-Fiacre, de la rue des Jeunes.
Et vous êtes croisés dans un café à plusieurs...
Non, c'est marrant parce que cette histoire est rigolote. C'est qu'en fait, donc je passais devant toujours à l'époque où elle n'avait que son petit bureau.
Okay.
Voilà.
Ah, où elle était 3-4.
Où elle démarrait. Et un jour, il y avait la porte ouverte. C'était un printemps. Il faisait chaud. Elle a laissé la porte ouverte comme ça. Et comme je suis un garçon assez curieux, je vois deux, trois fringues un peu comme ça qui m'alertent. Donc, je tends la tête et je regarde. Et je fais, putain, ça a l'air bien ce truc-là. Donc, je rentre, évidemment, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop timide. Donc, je rentre dans le bureau et je dis, je trouve ça très sympa. Est-ce qu'on pourrait acheter pour un magasin? Et là, elle me dit, ah, bah non, c'est pas possible.
C'est en nom propre.
C'est notre concept, c'est Internet et tout ça. Et c'était le tout démarrage, en fait. Et on a sympathisé un petit peu et on a discuté. Et elle m'a expliqué toute son histoire. Et puis de là, j'ai vu l'évolution, parce que tous les jours, je passais devant et je voyais l'évolution où elle prenait, après 40, c'était 70 mètres carrés, puis après de 80, puis 100, 200, 300, puis après, c'est devenu l'immeuble. D'accord. Donc voilà, et donc c'est une belle histoire.
Très belle histoire.
Franchement, très belle histoire.
Et tous les modèles pure digitaux, les vestiaires collectifs, les vintage, comment tu vois tous ces marketplaces et tout ça en vrai?
Alors, je vois ça comme des concurrents, hein, faut pas se raconter d'histoire. Maintenant,
ça manque un peu d'âme. Non, c'est un peu ça.
Ah bah ça manque complètement d'âme. C'est-à-dire que c'est des robots. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui au téléphone, c'est que moi j'ai des enfants, ils sont complètement obnubilés par ça. Et puis ils ont moins de recul, ils ont pas assez de recul, et donc ils sont bouffés par ça. Et après ça devient c'est des fantômes quoi. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Donc, il faut faire gaffe avec ça. Moi, ça m'inquiète un peu. Je ne te cache pas, en tant que papa, hein, évidemment. Ça m'inquiète parce qu'effectivement...
Tu trouves que ça joue trop sur l'achat compulsif?
L'achat compulsif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Tu ne touches pas, il n'y a pas d'histoire, on ne te raconte rien. Si tu as un truc sur un descriptif purement technique, bon, OK, ça manque de glamour. Hein. Où est le panache?
Les mages, les couples, tout cela, comment tu les vois un peu? Parce qu'à un moment, ça cartonnait et puis ça a été dur.
Eux, c'était mes concurrents. Et puis aujourd'hui, ils souffrent énormément de ça. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, eux, pour le coup, très stéréotypés. Donc, tu vois, pas beaucoup de mouvement dans leur collection.
Donc, il y a un sujet renouvellement qui est
C'est un problème pour eux. Tu vois, c'est majeur pour eux. Mmh. Et avant, c'était moins flagrant parce que tu n'avais pas Internet. Mmh. Donc, tu rentrais dans le magasin. Tu ne le voyais pas trop. Là, il faut que tu alimentes tous les jours. Et si tu regardes d'ailleurs leur réseau de communication en termes d'Instagram et tout ça, ils sont pas terribles, hein, faut pas se leurrer, mais parce qu'ils ont, t'as vite fait le tour quoi.
C'est ça qui est ultra dur dans la mode, c'est ce côté les collections, faut toujours renouveler, ça c'est super rare. Dur non?
Et puis surtout c'est pas ça, c'est super dur. Et puis je vais te dire, voilà la différence où on voit très fort la différence de la culture de l'indépendant, c'est Zara. Zara à la base c'est un multimarque, hein. Il a acheté au Sentier, tu parlais du Sentier tout à l'heure, mais c'était ça, hein. Zara c'est un multimarque acheté au Sentier, hein. Il faisait
ça, c'est la belle success story de cet univers, c'est celle-là. Hein.
Voilà, mais à la fois, il est toujours resté dans l'état d'esprit d'un multimarque, c'est-à-dire où tu alimentes chaque semaine ta clientèle. Et donc, effectivement, lui, c'est un multimarque dans sa tête. Et enfin, lui, maintenant, et les gens qu'il a formés par la suite. Mais je veux dire, l'ADN de Zara, c'est un multimarque. Hein. Donc ça, il faut le savoir, c'est que c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est pour ça qu'il pense comme ça. C'est la différence avec un des mages, des Sandro, qui pense collection, où il y a peu de mouvement, on construit une collection, mais c'est bien aussi. Mais
H&M, il était dans le même mood un peu que Zara, tu dirais ou...
Bah, ça reste le même mood, c'est simplement H&M, c'est encore un peu différent, c'est l'école scandinave.
C'est notre culture.
C'est notre culture, surtout dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter.
Et il y a les Japonais, alors comment ils s'appellent le bonnet là, comment c'était?
Bah, toute l'équipe d'Uniqlo et
voilà, Uniqlo, voilà. Ils ont amené quelque chose aussi.
Alors Uniqlo ils ont amené un truc. On va dire que c'est non, là les grands perdants c'est Gap.
D'accord.
Voilà,
c'est eux, c'était les champions il y a 20 ans,
non, mais
c'était
Uniqlo c'est Gap d'aujourd'hui, c'est tout, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais sauf que le problème, c'est que Gap, il a laissé sa place, c'est tout. C'est-à-dire que Gap n'a pas vu arriver Uniqlo, alors qu'il était leader, que le concept d'Uniqlo, ça aurait dû l'alerter en disant, putain, ok, bah, c'est nous les leaders, on a les emplacements, on a tout, on est connu, on a un nom. Et puis non, ils se sont laissés
balayer. C'est génial de t'écouter, là, les auditeurs, ils se prennent la masterclass du monde de la mode. Mais c'est intéressant, ce monde. En fait, ce monde, il a été...
Mais il est en mouvement.
Il est en gros mouvement et ça va très très vite.
Et des
gros leaders ont été totalement quid des gros, des grands d'avant, les Armani, les Ralph Lauren. Ceux-là, ils continuent à ou les Hilfiger.
Ralph Lauren, ça continue parce que ça
ils ont des pouvoirs.
ADN. C'est important l'ADN dans une histoire de la mode, tu vois. C'est-à-dire que une marque, c'est l'ADN. Tu vois, quand tu connais l'histoire de quelques marques françaises comme Chevignon.
Ah oui, Chevignon, c'était quelque chose à l'époque.
Mais parce que le mec, le mec qui l'a créé, c'est un phénomène. Voilà, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer alors qu'il a quitté le métier il y a plus de 25 ans. Et je l'ai rencontré donc au salon, tu parlais du salon, on me l'a présenté au Who's Next. Et le mec, qui n'a plus rien à voir du tout avec le métier, il a l'œil vif, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui échappe, il comprend tout, il est encore dedans. Le mec, il doit avoir pas loin de 70 ans.
C'est quand même un métier de passionné, passionné. Quoi.
Mais t'es pas passionné, il faut pas faire ça.
T'as retrouvé le lien avec la musique, d'ailleurs. Mais c'est un peu les mêmes styles de personnes.
Mais... Alors, je vais te dire, là, moi, je fais des liens. Tu sais comment j'appelle, quand j'ai un truc qui marche bien, j'appelle ça un tube, comme dans la musique. J'ai un tube, voilà. C'est le même état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté créatif aussi bien dans la mode. Quand tu recherches... Moi, mon rôle dans la musique, c'était producteur de musique. Donc, je produisais des artistes. J'allais découvrir des artistes et je les proposais aux maisons de disques. Et bien là, j'ai la même sensation quand j'achète des vêtements.
Le terme de collab, on n'est pas très loin, hein, finalement. Oui. Ça, tu penses quoi de ce terme de toujours adjoindre des talents, des sportifs ?
Je trouve ça, c'est top. C'est top parce que... Alors, quand c'est bien fait... Voilà, après, maintenant, il y a toujours le côté... où on s'est rattrapé un peu marketingement en parlant, de temps en temps c'est un peu tiré par les cheveux, mais quand c'est bien fait c'est top, quand tu t'investis vraiment les gens dans le projet, bon, c'est topissime.
T'as pensé à R, bien sûr, ce que tu dis là. Oui, les débuts de Jordan, c'était quelque chose.
Mais pas que, c'est-à-dire qu'il y en a tellement des tu vois là-dessus, tu me parlais d'H&M, ça a été une de leurs forces. H&M, à un moment donné, d'ailleurs, ils se sont perdus parce qu'après ils ont fait des collabs avec des gens moyens. Bon voilà, ils oublient de temps en temps et c'est la H&M, ça souffre en ce moment. C'est un groupe qui souffre. Tu vois, la différence de Zara qui a annoncé des chiffres qui font mal à la tête là. Si on est sur le purement économique, Zara vient d'annoncer des chiffres, ils ont battu tous les records de bénéfices.
C'est incroyable,
c'est fou.
Et ils sont forts.
Bah, ils sont très forts. Mais je te disais, c'est la culture du produit, c'est des tueurs, c'est bien, c'est vraiment bien, tu vois, voilà, il faut dire quand c'est bien, c'est bien. Alors on peut reprocher par contre que les magasins manquent un peu de charme, mais par contre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des tueurs, les mecs, c'est des assassins, il n'y a pas d'autre mot, c'est bravo, moi je dis bravo. Et pourtant c'est un peu des concurrents parce que à mon petit niveau c'est des gens qui me font du tort, mais moi quand c'est bien fait, j'ai rien à dire.
C'est des bons et que
toute l'expérience, quand il n'y a rien à faire, c'est bravo, c'est voilà. J'aimerais pouvoir dire la même chose de toutes nos marques françaises qui ont été un peu saccagées ces derniers temps, que ce soit les Koukaï, les Naf-Naf et tout ça, et qui avaient des stratégies qui ont été rachetées par des groupes qui ne connaissent rien.
La France, elle devrait plus soutenir quand dit le filière, le Made in France et tout ça. En vrai, ça, t'y crois pas trop. C'est le marché qui fait.
On doit l'économie de marché, hein, comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut être bon. Comme je dis souvent, si t'es bon, t'as ta place. Si t'es pas bon, voilà, on voit aujourd'hui les États-Unis souffrent énormément de leur vouloir comme ça se fermer au marché extérieur. Tu parles de mode, les États-Unis sont à la rue complète en termes de mode. Vraiment, ils sont zéro. Parce que justement, tu peux pas, tu veux te protéger, protéger, ça sert à rien, tu protèges. En fait, l'économie de marché, elle permet de stimuler aussi. C'est à toi d'être bon.
On te demande tu trouves bon. Le retail, il vise, parce qu'il y a aussi le sujet de l'innovation, c'est un monde qui n'est pas si simple à innover, hein, entre les essais. Tu vois des trucs intéressants.
Mais non, franchement.
Mais ça reste un métier de physique,
mais
c'est
évidemment,
ça que
tu veux dire. Mais évidemment, il n'y a pas. Tu sais, là, aujourd'hui...
Il va pas y avoir des avatars 3D de modélisation d'essayage.
Non, mais il peut y avoir 2-3 trucs rigolos qui peuvent venir, mais ça reste un truc qui est depuis la nuit des temps. Et tu refais, c'est t'as un client, t'as une vendeuse ou t'as un vendeur et t'as un produit. Tu vends un produit. Leur terme d'expérience magasin. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ça, tout ça, c'est bullshit.
C'est du market.
C'est du market parce qu'on cherche des moyens de dire qu'il faut qu'on donne de l'intérêt à nos magasins. L'intérêt de nos magasins. Oui. Vend des choses intéressantes dans le magasin et du bon personnel.
Et du bon personnel.
Et voilà.
C'est déjà
oui,
pas
effectivement.
Mal.
Et c'est déjà pas mal. Déjà, si tu fais ça, tu as déjà gagné une partie du travail. Maintenant, évidemment que l'histoire de on met des écrans, on appuie sur un écran, on voit la photo du truc, bon, tout ça, okay. C'est rigolo 10 minutes. La cliente, à la fin, elle veut un jean, elle veut un pantalon, elle veut une robe, elle veut un conseil, elle veut. Voilà.
Bon. Et donc, tu as des volontés d'expansion dans d'autres villes de province ou pas forcément ou dans
Bah aujourd'hui, je veux te dire, j'avais des objectifs. Je les ai atteints en quasi-totalité dans ce domaine, dans mon métier. Mm-hmm. Voilà. Donc maintenant, il me reste à perfectionner ce que je fais. Voilà. Ça, c'est par contre.
C'est déjà bien de consolider tout ce.
Ah oui, parce que je suis tout seul déjà.
Parce que de recréer à chaque fois un magasin, ça doit être quelque chose quand même. À chaque fois, tu remets le truc sur la table.
Ah ouais, tu remets un peu tout ce que tu as sur la table. Surtout quand t'as pas, moi j'ai pas d'investisseur, hein, c'est mon argent propre.
T'achètes pas forcément les locaux, j'imagine.
Ah bah si, on achète des fonds.
Tu prends les locaux.
Ouais, ouais, tu prends les fonds. Alors même si maintenant il y a beaucoup de loyers purs, mais économiquement les loyers purs pour notre type de magasin, c'est pas rentable parce que c'est des gros loyers.
Donc ça, c'est pas simple, c'est des grosses mises aussi. Ça,
ouais, voilà.
Les
donc,
fonds,
quoi qu'il arrive aujourd'hui, c'est du risque.
Bien sûr.
Et donc, effectivement, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis, bon, après, je suis tout seul. Et puis voilà, j'ai 11 magasins à gérer quand t'es tout seul. Déjà, c'est pas mal.
Bon, bah écoute, alors, toute dernière question, les deux dernières questions que je pose toujours aux invités. Alors, c'est tes goûts en matière de création. On va revenir sur tes premières amours, la musique et tout. En zik, ciné, série, BD, voilà. Et des quelques créations qui t'ont marqué, toi, de tout temps, en fait.
Alors de tout temps, enfin, ça va être un peu long.
Deux, trois trucs qui t'ont
marqué. Bon, en musique, évidemment. Bon, moi j'aime tout ce qui est le funk, évidemment. J'ai un chanteur où je deviens une midinette quand je l'entends. C'est le chanteur de Cool and the Gang qui est J.T. Taylor.
Pas mal ça.
Voilà, c'est un chanteur exceptionnel. Bon, il me transcende ce chanteur.
Okay.
Donc voilà, lui déjà dans la musique, c'est sûr.
Je sais qu'on a parlé ensemble de Barry White parce que j'ai vu l'émission sur Arte que j'ai trouvé incroyable.
Voilà, bon,
où j'ai appris plein de trucs sur lui, sur la composition.
Bon, Barry White, bon, oui, c'est vrai, c'est mon histoire un peu qui. J'ai gagné ma Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, je produis Organize qui est un.
Ah oui, t'as l'anecdote là.
Voilà, l'anecdote qui était un gros succès dans les années 90. Et donc, on faisait toutes les grosses émissions d'Arthur, donc les fêtes de la musique au Stade de France et au Parc des Princes. Et donc, on est invité à faire cette émission du 31 décembre. Et il y a en live, en direct, et il y a aussi Barry White qui a été invité lors de cette émission. Et donc, déjà, bon, bah, nous, on est juste avec les Organize, on était juste.
Il est grand Barry ou pas?
Oui. Ah oui, il est impressionnant.
Il impose.
Ah oui, non, il en impose quoi qu'il arrive déjà par sa voix, mais il en impose par le physique. Hein. C'était un monsieur qui était costaud.
Personnel.
Ah ouais, vraiment. Il y a un aura autour de lui. Bon, voilà. Et donc, on a la chance de le croiser et on le regarde comme ça. Et il nous reconnaît. Alors nous, c'est pas possible. Il nous appelle comme ça, il nous fait venir à lui. Alors nous, évidemment, on y va sur la pointe des pieds, comme ça, on le regarde comme ça. Et lui, il était déjà un peu malade. Donc il était assis dans son gros fauteuil, comme ça, derrière la scène. Et il nous dit, je vous ai vu à la télé ce matin. C'est vous que j'ai vu à la télé ce matin, le clip, tout ça. Alors donc, on lui répond, oui, c'est nous. Vous avez repris la chanson de ma copine, parce qu'on avait fait une reprise de Stéphanie Mills. Qui est le plus gros succès d'Organize, I Never Knew Love Like This Before, qui était une reprise de Stéphanie Mills. Mm-hmm. Et il dit bravo, c'est vraiment top ce que vous avez fait. Bon, alors quand il nous a dit ça, bon, moi, j'avais gagné ma Coupe du Monde, je pouvais me retirer et faire mon jubilé.
Ah oui, là c'était ton high point, comme on dit.
Exactement.
Là. Bon, là ça c'est la rencontre avec Barry pour les auditeurs, on va la teaser dans le post réseaux
voilà.
sociaux. Ça marche. Et puis,
bon, après les séries, bon, je suis. je suis fan de toutes ces séries un peu gangster là. J'adore Gomorrah parce que je trouve que c'est,
c'est
exceptionnel.
Et toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer en entrepreneur. Allez, ça peut être dans la musique, la mode ou tout type de domaine. Qu'est-ce que toi t'as retenu comme leçon?
Alors, comme je t'ai dit, faut se fier à son instinct. Voilà, son instinct. Il faut croire dans ses rêves. J'avais des rêves et j'y ai cru. Et quand on croit très fort et qu'on est convaincant, c'est de la conviction. Là, quand on est convaincu de quelque chose, on embarque tout le monde avec soi. C'est le seul truc que je peux dire. C'est-à-dire que la conviction, c'est le nerf de la guerre. Il faut croire dans ses rêves. Et vraiment, meilleur conseil que je peux donner à un jeune entrepreneur, c'est la conviction.
Ne pas lâcher, quoi.
Ouais, et puis non, mais la conviction, c'est-à-dire que être tenace et convaincu.
Bah, c'est l'école
et
Bernard.
Et convaincant.
Hein.
Ouais, mais c'est-à-dire, il faut embarquer tout le monde avec soi. Parce que si on embarque quelqu'un avec soi, si on arrive à embarquer une personne, ça veut dire qu'on est capable d'embarquer le monde entier.
Bon, bah on finira sur cette belle citation, Franck. Merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.